VOA Afrique, les infos, à Washington.
Bonjour à tous et à toutes. Yacouba Ouédraogo de retour avec vous pour un tour d'horizon de l'actualité. Direction Centrafrique, le département des opérations de la paix de l'ONU a ouvert une enquête sur de possibles défaillances de casques bleus, membres de sa mission de paix en République centrafricaine. Les enquêteurs examineront des attaques menées contre des civils par des groupes armés dans des lieux proches d'une présence de la MINUSCA. C'est notamment dans les préfectures de Haut-Koto, Basse-Koto, Mbomou et Hombomou. Le général béninois à la retraite Fernand Marcel Amoussou dirigera cette enquête spéciale indépendante sur des événements survenus entre le 1er mai et le 31 août 2017. Le Forum sur la paix et la sécurité en Afrique s'est tenu hier à Dakar. Le président Macky Sall a déclaré lors de la 4e édition que les interventions internationales doivent être adaptées aux réalités locales. La ministre française des Armées, Florence Parly, a réitéré le soutien de la France à la force conjointe du G5 Sahel. Idriss Fall a joint à Dakar Bakary Samb, directeur du Timbuktu Institute, spécialiste du terrorisme en Afrique de l'Ouest.
Au regard de la situation sécuritaire qui se détériore de jour en jour dans la région, il faut une coopération régionale la plus élargie possible. Le Sénégal évolue en dehors du G5 Sahel, mais aujourd'hui fait partie des pays qui sont les plus contributeurs pour les forces militaires africaines présentes au Mali. Je crois que le G5 Sahel est un cadre performant qui commence à travailler, mais auquel il manque des moyens, ce qui nous renvoie à l'éternelle situation de pays africains complètement dépendants des pays occidentaux pour leur défense. Et pourtant, ces mêmes pays avaient refusé l'Africom dans les années 2008. Et aujourd'hui, on est revenu aux mêmes options militaires qui consistent à faire appel à des puissances étrangères.
Le Niger vient d'autoriser d'ailleurs les Américains à opérer des drones armée. Est-ce que ce n'est pas aussi une preuve que les armées africaines, particulièrement en Afrique de l'Ouest, ne sont pas assez fortes ou pas assez formées pour lutter contre le terrorisme?
Aucune armée du monde n'est formée pour lutter contre ces forces-là et pour mener cette guerre asymétrique où il n'y a ni ennemi visible, ni front déterminé. Au-delà de cela, la crainte sur le continent, c'est la surmilitarisation à outrance de nos régions qui pourrait être contre-productive par rapport aux objectifs initiaux, c'est-à-dire la lutte contre le terrorisme. Les interventions militaires n'ont jamais pu régler la question du terrorisme. Je pense qu'il faut des solutions structurelles à la base, des solutions prenant le problème à la racine, avec la bonne gouvernance, de l'éducation et de la prévention. Il s'agit d'une bataille idéologique et dans l'histoire du monde, on n'a jamais vu une Kalachnikov battre ou vaincre une idéologie.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
RDC, des contradictions sur la panne d'eau et de courant électrique qui a frappé Kisangani. Le patron de la nationale de l'électricité, Alain Atundu, a affirmé que le président Joseph Kabila a fait prendre des mesures face aux risques sanitaires et sécuritaires. Jean Bosco Kayombo, numéro 2 de la Société nationale d'électricité, a ajouté que les habitants ont partiellement de l'électricité parce que des groupes électrogènes ont été activés pour alimenter certains points stratégiques. Toutefois, sur le terrain, des habitants se plaignent des pénuries. La société civile a donné 48 heures à la société d'électricité pour fixer l'opinion sur le rétablissement du courant électrique. La crue du fleuve Congo, entraînant l'inondation d'une centrale électrique, a privé d'électricité les habitants de Kisangani. RDC, toujours polémique autour de la délocalisation du quartier général de la police à Matshipisha. Ce quartier connaît des manifestations répétitives contre le président Joseph Kabila. Depuis l'annonce du commissaire provincial de la police du Haut-Katanga, le général Paulin Kiungu Banza, les avis sont partagés, des pour et des contre, comme l'explique Nava Mabila.
Insécurité, banditisme, manifestation contre les régimes, éternel quotidien des habitants du quartier Matshipisha. Pour faire face à cette situation, le commissariat provincial du Haut-Katanga a installé son quartier général dans le quartier Matshipisha. Selon le général Paulin Kiungu Banza, c'est une mise en garde très sévère envers les bandits et les inciviques à la population aux amis de la paix de collaborer avec la police d'Ixit. Le bourgmestre de la commune de Lubumbashi, qui a la gestion d'une partie du quartier Matshipisha, appuie cette décision. Gustave Ngoy s'explique.
Il y avait des inciviques qui voulaient troubler à chaque instant l'ordre public au niveau de Machu Picchu. En fait, la police a pris quand même ses responsabilités. C'est pour l'intérêt public. Il a pu au commissaire général de la police de déplacer son cabinet ou son QG et le déposer au niveau de Machu Picchu pour sécuriser la population et leurs biens.
Du côté de la société civile du Haut-Katanga, l'inquiétude est grande face à l'installation du quartier général au quartier Machu Picchu, comme s'exprime Maître Kaloa, coordonnateur.
Cela prouve à suffisance qu'il n'y a pas une bonne collaboration entre la police ainsi que la population. Le fait d'avoir ce QG suscite toujours des inquiétudes au sein de la population que nous représentons. Voilà pourquoi nous demanderons qu'on envisage une autre politique, parce que chaque fois, à chaque instant, il y a toujours de mouvements qui entraînent certaines paniques dans le chef de la population.
Dans les rues du quartier Machu Picchu, la méfiance est totale face à l'installation du quartier général de la police, comme certains s'expriment à notre micro sous anonymat pour raison de sécurité.
Je suis content du fait qu'il a placé son QG ici. Ça va quand même nous soulager des abus des policiers. Faire du désordre ici, soi-disant les membres de l'IDPS, ce ne sont pas les résidents de ce quartier. Ce sont des gens qui viennent d'ailleurs.
Ne pas faire les manifestations inutiles par rapport de brûler les pinets et tout comme ça. Maintenant, et il vient ici pour commencer à taper les gens, gifler les gens. Il fait que c'est seulement à 19h. Tu essaies un peu de passer de l'autre côté du Machu Picchu ici, même à l'arrêt, même sur les nourris ici, on gifle les gens.
Ici à Machu Picchu, les habitants compriment leur colère devant les bouts de canons des forces de sécurité. Lubumbashi, quartier Machu Picchu, Narval Mabila, VO Afrique.
Crise politique au Zimbabwe, le chef de l'armée entre dans la danse. Il a dénoncé l'éviction du vice-président Emmerson Mnangagwa et réclame la fin de ce qu'il a qualifié de purge au sein du parti présidentiel ZANU-PF. Monsieur Mnangagwa, pressenti comme un possible dauphin du président Robert Mugabe, a été démis de ses fonctions de vice-président la semaine dernière, après un bras de fer avec la première dame Grace Mugabe. Madame Mugabe se retrouve désormais en position idéale pour succéder à son époux, âgé de 93 ans. Le chef de l'armée a prévenu que lorsqu'il s'agit de protéger la révolution, l'armée n'hésitera pas à intervenir. Environ 90 hauts responsables militaires ont assisté à cette déclaration qui intervient alors qu'Emerson Mnangagwa a fui le Zimbabwe pour l'Afrique du Sud, selon ses proches.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington.
Ici, aux États-Unis, Jeff Sessions, de nouveau devant le Congrès, le ministre américain de la Justice va être interrogé aujourd'hui sur l'ingérence russe dans la présidentielle américaine de 2016. Il avait soutenu la candidature de M. Trump alors qu'il était sénateur de l'Alabama. M. Sessions devra s'expliquer sur ses relations avec George Papadopoulos, un conseiller de la campagne du milliardaire républicain qui a plaidé coupable d'avoir menti aux enquêteurs de la police fédérale, le FBI. Lors de son audition de confirmation au Sénat, Jeff Sessions avait affirmé n'avoir eu aucun contact avec des responsables russes dans la campagne. Toujours aux États-Unis, la Chambre des représentants a voté hier une loi qui prévoit de réduire les retraites et avantages fédéraux accordés aux anciens présidents. Cette législation doit encore passer au Sénat avant d'être adoptée. Le texte prévoit notamment de plafonner à $500,000 annuels le budget alloué à chaque ancien président des États-Unis. Le républicain Jordi Hayes, auteur du projet de loi, estime que le contribuable américain ne devait pas continuer de payer pour la retraite de ses ex-présidents. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a exhorté la dirigeante birmane Aung San Suu Kyi à permettre le retour dans son pays des centaines de milliers de Rohingyas réfugiés au Bangladesh. Cette rencontre, à marge d'un sommet régional dans la capitale philippine, est venue renforcer la pression internationale sur la prix Nobel de la paix qui s'entretiendra aujourd'hui avec le secrétaire d'État américain Rex Tillerson, lequel se rendra ce mercredi en Birmanie. Plus de 600 000 Rohingyas ont fui vers le Bangladesh, en 2 mois et demi. Et puis, le président iranien Hassan Rouhani est arrivé aujourd'hui à Kermanshah, capitale de la province éponyme frappée dimanche par un violent séisme. Il a promis que l'État répondrait le plus vite possible aux attentes des victimes de la catastrophe. Le tremblement de terre a fait 423 morts et 7730 blessés. C'est tout pour ce bulletin d'information. L'info revient dans 50 minutes.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.